Aphrodite, la semaine des droits des femmes et de l'égalité des sexes et des genres, c'est du 3 au 8 mars sur Radio Campus Orléans. Aphrodite. 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 Aphrodite revient pour une troisième édition. Du 3 au 8 mars, Radio Campus Orléans tourne ses programmes autour des droits des femmes et plus largement autour de l'égalité des sexes et des genres. À l'occasion du 8 mars, retrouvez toute la semaine vos émissions habituelles ainsi qu'une sélection de programmes exceptionnels quotidiennement à écouter en direct sur votre radio préférée. Aphrodite, du 3 au 8 mars, sur Radio Campus 88.3 FM.
C'est la troisième édition d'Aphrodite sur le 88.3 FM. Radio Campus Orléans mobilise ses programmes pendant toute une semaine autour des droits des femmes ainsi que de l'égalité des sexes et des genres. L'occasion pour nous de rediffuser un entretien très intéressant effectué par quatre jeunes des quartiers d'Orléans-la-Source et de l'Argonne. Ces derniers, membres des centres sociaux Romain Rolland et Pau d'Argent, avaient travaillé avec une dizaine d'autres camarades pendant toute une semaine sur un projet journalistique consacré aux discriminations. Cette émission avait été diffusée sur la Rédac Pop, notre média participatif et citoyen. À cette occasion, l'équipe de jeunes journalistes a interviewé Maïté Delorme, animatrice et conseillère familiale et conjugale au planning familial du Loiret. Un entretien réalisé par Jacqueline, Lina, Fanta et Aliou.
Bonjour Maïté Delorme, vous travaillez au planning familial du Loiret. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le planning familial ?
Ok, alors bonjour déjà, puis merci de m'avoir invitée aujourd'hui pour parler de mon travail. Donc le planning familial, c'est une association qu'on appelle d'éducation populaire, une association gratuite où on peut venir pour parler de tout ce qui va être la vie relationnelle, la vie sexuelle, les relations aux autres, tout ce qui va tenir un petit peu sur le corps, l'anatomie, la contraception, ce genre de choses. Donc c'est une association gratuite, militante et aussi féministe.
Vous êtes animatrice et conseillère conjugale et familiale. Pouvez-vous nous expliquer vos missions au sein de l'association ?
Alors, une conseillère conjugale et familiale au planning, sa mission principale, ça va être ce qu'on appelle de l'écoute. Donc en fait, nous, on a des personnes qui vont venir au planning pour discuter, pour poser des questions. Et nous, on est là pour les écouter, pour essayer de comprendre un petit peu leur situation, pour peut-être leur proposer des pistes de solutions à des problématiques qu'ils ou elles auraient. Et puis, on sert aussi à faire ce qu'on appelle un petit peu de l'éducation, de la promotion. C'est en gros, par exemple, on va aller dans les écoles, on va aller dans les centres sociaux, comme aujourd'hui, parler un petit peu de nos missions, parler un petit peu de l'éducation à la sexualité, essayer de, voilà, d'éduquer un petit peu sur ces questions-là autour de la sexualité.
Le planning familial s'occupe notamment des discriminations sexistes subies par les femmes. Y a-t-il d'autres formes de discrimination que votre association traite ?
Oh oui, la question de la discrimination, c'est une grosse question. Comme je disais, nous, le planning, on est une association qu'on appelle féministe. Je ne sais pas si vous savez un petit peu ce que c'est le féministe, si vous en avez déjà entendu parler. Donc, le féminisme, c'est lutter pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, lutter pour l'égalité entre toutes les personnes. Donc, nous, c'est vrai que majoritairement, on reçoit surtout des femmes. Dans nos accueils, on a quelques hommes qui viennent, mais la majorité des personnes qui viennent nous voir, c'est surtout des femmes. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on touche un petit peu aux questions de sexualité, aux questions de violence, on se rend compte que ça touche majoritairement les femmes. Donc, au niveau des discriminations que les personnes, elles peuvent vivre, c'est peut-être des choses que vous voyez un petit peu autour de vous, mais vous en avez peut-être déjà entendu un peu parler. Les femmes, elles vivent de la violence, parfois dans la rue, ce qu'on peut appeler le harcèlement de rue. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez un petit peu. Le harcèlement de rue, vous savez ce que c'est ? Vous en avez déjà entendu parler ? Ouais, ça ressemblerait à quoi pour vous ? Enfin, ce serait un des exemples de ce que les filles peuvent vivre à tous les jours dans la rue. Je ne sais pas, quand sur votre chemin entre la maison et l'école, est-ce qu'il y a des choses parfois que vous pouvez vivre en tant que fille, que pour vous les garçons ne vivraient pas ?
Les attouchements.
Ouais, c'est vrai, par exemple. Il y a des femmes qui viennent nous voir, qui peuvent nous dire qu'elles ont vécu des situations de violence, par exemple dans le bus, dans le tram, ce genre de choses. Ce que des personnes pourraient appeler de la drague, mais est-ce que c'est vraiment de la drague ? Vous savez, je sais pas, se faire siffler ou se faire interpeller par des personnes dans la rue. Est-ce que c'est des situations agréables, selon vous, à vivre ?
Non, c'est pas une situation agréable.
Ouais, effectivement. Du coup, tout ça, ça fait partie un petit peu des situations de violence qu'on peut vivre. Mais même à l'école, je pense que vous avez peut-être des idées de discrimination qu'on peut vivre à l'école en tant que jeune.
Comme le harcèlement.
Ouais. Tout à fait, le harcèlement. Ça, par exemple, le harcèlement, ça peut aussi être un genre de situation que nous, on peut accompagner en tant que conseillère conjugale au planning familial, des jeunes qui viennent nous voir, qui vivent des situations de harcèlement à l'école et qui ne savent pas trop à qui en parler. Et du coup, bah, nous, on peut être là pour accompagner, pour essayer d'en parler à ses proches, pour essayer de trouver des solutions avec l'établissement, ce genre de choses. Ça, ça peut être un exemple de situation.
En fait, qu'est-ce qu'on peut définir pour harcèlement ?
Comment vous définissez ? Enfin, ce serait quoi, vous, votre définition du harcèlement ?
Bah, en fait, pour moi, l'harcèlement, c'est quelque chose qui se répète.
Tout à fait. C'est ça. C'est une situation qui se répète et une situation vécue de manière violente.
Quand on a fait nos recherches sur le planning familial, on a vu que celui-ci travaille depuis environ 2018 sur les questions d'intersectionnalité. Que signifie ce mot ?
Merci de poser la question. L'intersectionnalité, c'est un grand mot. Vous en aviez déjà entendu parler de l'intersectionnalité ? Ce mot-là, vous l'aviez déjà entendu ? Avant hier, c'était un mot dont vous n'aviez pas entendu parler. L'intersectionnalité, ça va être l'idée que, par exemple, selon vous, quel type de discrimination je pourrais vivre si je suis une femme, si je suis racisée, si je suis en situation de handicap et que je suis aussi, par exemple, homosexuelle, quel type de discrimination je pourrais vivre dans ma vie ?
Je dirais à peu près tout.
Ouais. Par exemple, en tant que femme, je peux vivre du sexisme. En tant que personne racisée, je peux vivre du racisme. En tant que personne en situation de handicap, je peux vivre de la handiphobie. Et en fait, ça va être d'expliquer que toutes ces discriminations, elles peuvent s'ajouter. Il y a des personnes qui vont se retrouver dans plusieurs situations différentes et que j'ai plus de risques de vivre de la discrimination si je suis une femme et si en plus je suis racisée et en situation de handicap. C'est-à-dire qu'il y a plus de situations où je vais être discriminée.
Et par exemple, si ce ne serait pas une femme, mais un homme, serait toujours la même chose.
C'est possible. Par exemple, un homme, je ne sais pas, d'origine d'un certain pays où l'homosexualité, c'est puni par la loi. Et ben, par exemple, je ne sais pas, un homme d'une certaine origine et homosexuel, il va vivre plus de discrimination que, par exemple, un homme blanc homosexuel. Parce que ça va se rajouter. Il va peut-être vivre du racisme et en plus, il va vivre de l'homophobie.
Mais si ce sera un homme blanc, ça aurait fait la même chose ?
Si, par exemple, il est en situation de handicap et qu'en plus, il est homosexuel, c'est des choses qui peuvent se rajouter. En fait, c'est de dire qu'il faut prendre les personnes avec toute leur entièreté, tout ce qu'elles sont. Et que bah, forcément, il y a certaines situations dans lesquelles on va vivre des discriminations plus fortes. Par exemple, on sait que les femmes, elles sont plus précaires. Vous savez ce que ça veut dire, précaire ?
Non.
C'est-à-dire que, par exemple, elles vont avoir des emplois moins bien payée ou avec moins d'heures. Et on sait que, par exemple, une femme en plus racisée, eh ben, ça va encore plus s'ajouter. Elles vont se retrouver dans des emplois avec encore moins d'heures et encore moins bien payées.
Quelle différence, type de discrimination les femmes peuvent-elles subir en France ?
Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez des idées de type de discrimination qu'on peut vivre en tant que femme ?
Ben déjà, les femmes voilées.
Ouais, par exemple, sur le voile.
Les femmes de couleur.
Ouais. Et par exemple, dans sa vie de tous les jours, est-ce qu'il y a des choses où, en tant que femme, on aurait moins le droit de faire ou alors on aurait plus de risques si on le fait ? Par exemple, nous, il y a des jeunes, on intervient aussi en milieu scolaire. Il y a des jeunes qui nous disent qu'en tant que filles, elles se sentent moins en sécurité dans la rue. Par exemple, elles ont un peu plus peur de sortir que les garçons. Donc, dans les chiffres, les filles, elles subissent un petit peu plus de violence dans la rue que les garçons. Ça peut être des situations de violence. D'autres situations, là je parlais par exemple de l'emploi. Il y a certains emplois où c'est plus difficile pour une femme d'y avoir accès. Par exemple, des hauts postes de direction dans des grandes entreprises, c'est plus souvent des hommes qui ont ces postes-là que des femmes. Peut-être que vous avez vu aussi, par exemple dans les gouvernements, en politique, souvent les personnes en haut pouvoir, c'est plus souvent des hommes. Ça, c'est aussi des discriminations que les femmes, elles, peuvent subir.
Au quotidien, quelles sont les discriminations les plus récurrentes que vous pouvez constater lorsque vous rencontrez des femmes au sein de vos locaux ?
Très souvent, les femmes qu'on reçoit, elles viennent nous parler de situations de violence qu'elles ont pu vivre dans leur couple ou dans leur famille ou dans leur travail. C'est souvent autour de ça que ça va tourner. On accompagne aussi sur les questions de sexualité et les femmes, elles peuvent aussi nous dire que sur ce qui va être la sexualité, la contraception, il y a une pression plus forte pour les filles, pour les femmes, que pour les hommes. Je sais pas, par exemple, dans un établissement scolaire, quand une fille a eu plusieurs copains dans l'année, elle va pas être jugée de la même manière que si un garçon a eu plusieurs petites copines dans l'année. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête ou pas spécialement ?
Non. Je pense que c'est le contraire parce qu'en fait, le garçon, s'il a plusieurs copines, bah, il va être mal vu. Genre, il va être vu comme un coureur de jupons.
Mm-hmm. Et la fille, elle serait plutôt vue comment ? Si elle a plusieurs copains ?
Une craqueuse d'argent.
Ah, une craqueuse d'argent, ok.
Bah, parce qu'en fait, elle va sûrement chercher déjà avec le plus d'argent qui. Genre pour. Juste pas pour. Gratter l'argent, quoi.
Ça, c'est intéressant. C'est intéressant.
Pour moi, c'est qu'est-ce que j'en.
Ok, donc oui, on est plus sur rechercher l'argent. Et pour les garçons, ce serait plus quoi ? Rechercher un peu la réputation, la gloire, un truc comme ça ?
Coureur de jupons.
Coureur de jupons. Ouais, d'essayer d'avoir le plus de copines possible.
Ouais.
Ouais, ok. Ok, c'est intéressant.
Ça vous surprend ?
Ouais, ça me surprend un peu, mais c'est un peu plus craqueuse d'argent, j'avais pas ça en tête. Donc c'est intéressant.
Comment le planning familial fait pour aider les femmes victimes de discrimination ? Quels sont les moyens d'action ?
Le planning familial, déjà, comme je disais tout au début, c'est une association militante. Donc on va aussi militer, on va en parler. En fait, on va aller, il y a des grandes journées, par exemple, le 25 novembre, je ne sais pas si vous connaissez cette date-là, le 25 novembre, c'est une journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous, au planning familial, on va aller manifester, on va aller en parler, on va dire que c'est des situations qui existent. Ça, c'est une première manière de lutter, d'essayer d'en parler au maximum de personnes pour que tout le monde puisse se rendre compte de ce qui se passe. Et puis, la deuxième manière, ça va être d'accompagner, d'éduquer, donc de se déplacer dans les structures pour en parler, d'accueillir les personnes dans nos locaux pour les écouter, pour les croire, pour peut-être les aider à faire des démarches. Je ne sais pas, si on a vécu une discrimination dans son travail, peut-être qu'on peut essayer, s'il y en a qui ont envie de porter plainte, nous, on peut les accompagner là-dedans. Et puis, parfois, au moins, d'avoir quelqu'un à qui on peut en parler. Parce que c'est pas forcément facile de parler de tout ça. Donc ça peut aussi faire partie des missions du planning familial, de au moins être là pour accueillir et puis pour écouter.
Combien de personnes aidez-vous ?
Oula ! Alors, combien de personnes on a ? Alors nous, on a 3 lieux d'accueil à Orléans. À Orléans-la-Source, à Orléans-Centre et à Beaugency. On a à peu près peut-être une trentaine de personnes qui viennent tous les jours sur nos accueils. Et puis après, on envoie le double à l'extérieur. Quand je vous disais, par exemple, quand on va dans des classes, on fait à peu près 150-200 classes par an en milieu scolaire. Une classe, c'est à peu près 30 élèves. Donc, vous pouvez faire un peu la multiplication du nombre de personnes. On voit pas mal de monde. On va aussi dans des, par exemple, des foyers de vie pour les personnes en situation de handicap. On voit aussi beaucoup de personnes dans ces accueils-là. Et là, on va faire des jeux, des activités, discuter un petit peu de c'est quoi la sexualité, comment en parler, comment la vivre bien, sereinement. Donc on rencontre beaucoup, beaucoup de personnes au planning et on accueille tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge, on accueille les mineurs, on accueille les majeurs et il n'y a pas de genre. Les femmes, les hommes, tout le monde peut venir et il n'y a pas non plus d'orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'on peut accompagner des personnes qui se posent des questions sur leurs attirances, sur leur orientation. C'est aussi des personnes qu'on accompagne au planning. Donc tout le monde peut venir et c'est gratuit et c'est confidentiel.
Depuis la création du planning familial à la fin des années 60, êtes-vous satisfaite de l'évolution de la condition des femmes en France ?
Oh waouh, c'est une grosse question. Je sais pas, est-ce que vous avez l'impression que la condition des femmes, elle s'améliore selon vous, enfin vous à votre niveau ?
En fait, on voit peu d'histoires sur des gens qui se font kidnapper, des femmes qui se font kidnapper, plein d'autres choses et tout. On en a vu qu'une seule des histoires. Celle de Lina, mais après, l'autre, c'est bon. Y a pas, ça a vraiment évolué.
Les kidnappings, ça arrive pas si souvent que ça. Hein. Mais c'est un peu ce qu'on a. Par contre, ça fait partie peut-être de la peur qu'on a en tant que jeune fille. C'est peut-être quelque chose qu'on a en tête quand on sort, je sais pas, le soir, qui là, il commence à faire nuit assez tôt quand on sort de l'école. Est-ce que c'est un truc, par exemple, que vous avez en tête, un peu cette peur-là de se faire enlever ou kidnapper ?
En fait, l'année dernière, le jeudi, je terminais à 17h. Donc, en hiver, il commençait déjà à faire nuit. Et donc, ça faisait peur des fois de voir, de sortir. Même quand j'allais chercher mes sœurs après l'étude, ça faisait peur.
Ça faisait peur, ouais. Et est-ce qu'en tant que garçon, tu ressens la même peur quand tu sors le soir ?
Non.
Non ? T'es un peu plus serein de sortir
Oui.
Ouais. Donc ça peut aussi faire partie un petit peu de la condition des femmes aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai. Hein. Effectivement, ça s'est quand même amélioré. Il y a des choses sur lesquelles on a beaucoup plus de droits. Je ne sais pas si vous avez fait un petit peu d'histoire. Vous savez qu'à l'époque, par exemple, une femme, elle avait besoin de l'accord de son mari pour ouvrir un compte bancaire. Elle avait besoin de l'accord de son mari pour travailler. Avant que les contraceptions, elles existent, on n'avait pas de moyen de savoir quand est-ce qu'on allait tomber enceinte. Donc on pouvait avoir plusieurs enfants, puis pas forcément le vouloir. Là-dessus, il y a des choses qui ont évolué quand même. Il y a des choses aujourd'hui où c'est quand même... Les femmes, elles peuvent travailler, elles ont leur compte bancaire, elles peuvent être propriétaires de leur maison. Il y a quand même des choses qui ont évolué. Mais on sait qu'il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler. Il y a encore beaucoup de violences que les femmes, elles vivent à tous les jours. Et c'est quand même une lutte sur laquelle il faut continuer à bouger. Donc nous, par exemple, en tant qu'association féministe, on travaille vraiment là-dessus. Là, par exemple, actuellement, on a un gros projet sur ce qu'on appelle la précarité menstruelle. Je ne sais pas si vous voyez un peu h que ça veut dire. Précarité menstruelle, c'est on se rend compte que la moitié de la population a ses règles. Pratiquement toutes les femmes ont leurs règles à un moment dans leur vie. Acheter des protections, les serviettes, les tampons, ça coûte très très cher. Et ça, c'est une dépense qu'on prend en charge nous-mêmes. Et en tant que jeune femme, des fois étudiante, on n'a pas forcément les moyens d'aller acheter des protections pour les règles comme ça tous les mois. Et donc nous, on essaye de lutter contre ça, de les distribuer gratuitement et de montrer que en fait, on n'a pas choisi d'avoir nos règles. Et nous, on aimerait bien que ce soit remboursé par la sécurité sociale et puis qu'on puisse y avoir accès gratuitement et qu'on n'ait pas à se poser la question de est-ce que je vais à l'école aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai pas de protection et que du coup, si j'ai pas de protection, peut-être que je vais tacher mon pantalon et que ça va se voir.
On va conclure l'entretien. Nous avons une dernière question. D'après vous, que peut-on faire de plus pour améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes ?
Ça, c'est une grosse question aussi. Je sais pas, est-ce que vous, à votre niveau, vous auriez une idée, par exemple, dans votre établissement, dans votre vie de tous les jours, dans le centre social dans lequel vous passez vos vacances, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles qu'on pourrait mettre en place, des trucs qu'on pourrait faire ? Est-ce que vous auriez des idées ?
En fait, nous, dans les centres sociaux, en vrai, il n'y a pas vraiment d'inégalité. Donc, si on regarde les centres sociaux et tout, les centres de vacances, il y a rien qui change en fait, c'est tous il y a plein d'égalités.
OK.
Il y a plus d'égalité que d'inégalité en fait.
J'ai quand même entendu parler de l'histoire de la PlayStation, qui est quand même monopolisée souvent par les garçons.
Ah.
Alors là, c'est parce qu'en fait, nous, les filles, on n'a pas vraiment envie d'y toucher. Voilà.
Ça vous tente pas, voilà. Plus que ça.
Un peu, mais non.
Il y en a peut-être qui auraient envie. Bon, le truc, ce serait ça. Ce serait que s'il y a des filles qui en ont envie, il faudrait pouvoir y avoir accès autant de temps que les garçons. Mais après, là, moi, je pense à un truc vraiment, vraiment de aujourd'hui, là, que vous faites déjà, en fait, pour lutter contre les discriminations.
Mais en fait, les discriminations, on en fait tous les jours, mais sans s'en rendre compte, en fait.
C'est vrai, c'est vrai. Et là, par exemple, participer à ce podcast, à cette émission, participer à cette journée, c'est déjà un moyen de lutter, en fait, contre les discriminations.
En fait, la discrimination, elle est là partout, mais on ne peut pas l'enlever. On vit avec.
C'est vrai qu'on vit avec. Ce qui est important, c'est de pouvoir s'en rendre compte, de pouvoir en parler, et puis petit à petit, d'essayer de trouver des améliorations pour que les choses, elles bougent, elles changent.
Améliorer la discrimination, ça va prendre du temps, mais ça va. Peut-être que ça va marcher.
Ben ouais, complètement. J'espère aussi.
Merci beaucoup, Maïté Delorme, d'avoir répondu à nos questions.
Ben, merci à vous de m'avoir invitée, c'était très gentil.